Seigneur notre Dieu, nous te remercions d'avoir ce privilège de pouvoir ouvrir la parole de Dieu. Oh, que ça reste dans notre cœur. Et nous te demandons de nous la montrer, de nous l'éclairer. Nous ne pouvons pas nous-mêmes. Mais te demandons que ton Saint-Esprit nous éclaire sur ta parole ce soir. Voilà, nous te demandons tout cela au nom de Jésus. Amen. Alors, on prendra dans l'évangile de Marc. Marc. Et on ira au chapitre 4. Marc 4, les versets 35 à 41. Marc 4, 35. Vous savez que c'est ce récit qu'on connaît si bien, qui est donné dans trois évangiles. Donc il est important, il est donné dans Matthieu 8 aussi, et puis dans Luc 8 également. Alors on va lire ça. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit « Passons sur l'autre bord ». Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe, sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi ». Et le vent cessa et il eut un grand calme. Puis il leur dit « Pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Alors on connaît bien ces textes, mais on va essayer de se mettre aussi dans la situation. Alors d'abord, le voyage, ce qui est sûr, c'est qu'il est ordonné par le Seigneur Jésus. Donc on sait déjà que c'est lui qui l'a voulu, et ceci est bien sûr la grande sécurité, bien sûr. Et puis, en ce qui concerne les fêtes, il s'éleva un grand tourbillon, les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Alors là, on a affaire quand même, pour ses disciples qui sont là, brutalement, à une difficulté qui est maximale, évidemment, puisque les paroles sont claires. Le grand tourbillon, les flots se jettent dans la barque au point qu'elle se remplit. Dans les deux autres évangiles, c'est à peu près les mêmes termes. Donc ce tourbillon sur le lac, et ils étaient donc en péril, évidemment, en péril de mort, parce que ça se remplissait très vite. Une barque, c'est petit. Vu l'intensité des fêtes du vent et de la mer, il est sûr que ça allait s'aggraver et finir par noyer le bateau. Et alors, à ce moment-là, la réaction des disciples à propos de ces fêtes qui arrivent, qui existent, qui sont bien vraies. Dans Matthieu 8, 25, il est dit ceci. Alors, je vais vous le lire parce qu'il y en a trois fois. Il est dit « Seigneur, sauve, nous périssons ». Et c'est vrai. Dans Marc, il est dit ici au verset 38, lui, il dormait à la poupe sur le coussin, ils le réveillèrent et lui dirent « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ? La mort est là, les flots arrivent dans cette tempête, et lui, tu t'inquiètes pas. » Et dans Luc, il est dit ceci « Maître, maître, nous périssons. » Donc là, il y a vraiment une constante dans ces réactions de ces hommes. Ils vont mourir, ils vont être noyés par ce cyclone qui arrive là. Donc, comme on l'a dit, la réalité de cette tempête existe, leur angoisse existe, au point de vue des fêtes, elle est justifiée, je pense qu'on aurait été pareil, et ils vont périr noyés, c'est certain, et c'est obligatoire. Et puis, leur angoisse, donc, elle est là, elle est présente, et ils n'ont plus qu'un recours. Ils n'ont plus qu'un recours, c'est rapidement demander le secours du Seigneur Jésus qui est ici avec eux, vu que c'est lui qui a programmé le voyage. Et donc ils disent ces phrases au tonnerre, « Maître, sauve !» Et ils s'étonnent de ce qu'ils ne s'inquiètent pas, parce qu'ils l'ont réveillé, ils dormaient. Ils dormaient, pourtant, il y avait du vent, un fort vent, il y avait une houle extraordinaire, on est tous montés sur des bateaux pour dormir, il faut vraiment avoir le cœur en paix, c'est ce qu'avait aussi le Seigneur Jésus. C'est pour ça qu'il dormait, évidemment, mais nos frères les disciples, et ce serait, on aurait été comme eux, ne s'étonne de ce qu'il dort. Et il nous est dit dans Matthieu qu'il s'endort pendant le voyage, ça c'est 8:23, puis ensuite il dort. Donc pendant le voyage, déjà, il s'est endormi. Donc il était différent de ses disciples dans son attitude. Mais eux, ils s'en sont étonnés. Alors, ils le réveillent. Le Seigneur Jésus voit clairement la situation dangereuse, comme eux. Il ne la sous-estime pas du tout. Il la met à sa juste valeur, comme eux. Et il fait partie du groupe. Et il va mourir comme eux si la tempête continue. C'est sûr, on ne peut pas faire autrement. Alors, on voit maintenant les réactions du Seigneur Jésus, qui est là, un homme comme nous, mais le Fils de Dieu venu sur la terre. Alors, par ses disciples, il va commencer à leur parler et à leur dire certaines choses. Mais pendant ce temps, la tempête continue et elle s'aggrave. Alors, il va leur dire trois fois, dans Matthieu, dans Marc et dans Luc, « Pourquoi avez-vous peur ?» Ça, c'est dans Matthieu. Dans Marc, il leur dit « Pourquoi avez-vous si peur ? Comment n'avez-vous point de foi ?» Alors il met la relation entre leur peur et la foi. La foi, lui, il l'a, et il n'a pas peur. Les disciples, nos frères, et là il faut dire nos frères, hein, parce que je pense qu'on aurait été frères là aussi, hein, ils ont dit, mais pourquoi avez-vous si peur ? Comment n'avez-vous point de foi ? Il va mettre tout de suite en relation la peur qui existe là, avec la foi en lui. Et il dit aussi dans Marc, gens de peu de foi, ça c'est dans Matthieu, gens de peu de foi, pourquoi n'avez-vous pas de foi ? Ça c'est donc dans Matthieu. Et dans Marc, pourquoi n'avez-vous pas de foi ? Et dans Luc, où est votre foi ? Donc dans ces circonstances terribles, il va insister sur un point. Alors que la tempête fait toujours rage. Pourquoi n'avez-vous pas de foi ? Où est votre foi ? Il faut se mettre à la place. C'est des circonstances dramatiques. Et il vient leur demander ça. J'ai été très interpellé par ce texte, évident. Où est ma foi ? Pourquoi est-ce que je n'ai pas de foi dans les circonstances qui auraient été celles-là ? Je suis certain que j'aurais agi comme les disciples. Je vous dirai pourquoi tout à l'heure. Et le Seigneur va mettre le point sur ses disciples, qu'il va amener tellement plus loin avec lui. Où est votre foi dans ces circonstances si difficiles ? C'est pour ça qu'il y a trois fois dans la Bible ce texte. C'est pour nous encourager, évidemment, pas pour nous condamner. Et après, il va montrer sa puissance sur les éléments. Là, on voit cette puissance. Il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Et le vent, c'est ça, et il y eut un grand calme. Et dans les trois évangiles, c'est pareil à quelques mots près. Et il montre sa puissance à ce moment-là. Et il montre au fait quel doit être le regard de notre foi dans les circonstances qu'il permet dans nos vies, dans ma vie, qui quelquefois sont difficiles, très difficiles, voire dramatiques, nous en avons connu. Quel doit être notre regard ? Est-ce que notre regard doit être sur les circonstances, évidemment, qu'il est notre regard sur les circonstances, on vit avec ce qu'on voit et ce qu'on est, mais est-ce que c'est ce regard-là que l'on doit garder ou au contraire, pouvoir mettre notre regard sur le Fils de Dieu qui, lui, domine les circonstances, domine les éléments de nos circonstances et qui va pouvoir faire cesser leur peur à eux et nos peurs à nous, et remplir nos cœurs des pensées de paix qui étaient en lui. C'est très fort, ces passages, ce passage-là. Il est très fort parce qu'il est, il a une circonstance ultime qui va arriver à la mort à travers ce message. Et il nous a dit pourquoi dans Luc, s'étant réveillé, il menaça les vents et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Marc, on l'a vu. Et dans Matthieu, il menaça les vents et la mer et il eut un grand calme. Il domine tout. Il est le créateur des éléments. Et bien sûr qu'il est aussi le créateur des circonstances, les nôtres aussi, dans ces éléments. Et on sait que dans chaque crainte, dans nos vies, derrière, il y a la crainte de la mort. C'était le cas, là, évidemment. Et on va lire ensemble dans Hébreux 2, qu'on connaît bien, mais pour vraiment nous fortifier et nous amener dans ces plans du Seigneur pour la paix qu'il veut pour nous. Dans Hébreux 2, au verset 14 et 15, donc Hébreux 2, 14, ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par sa mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Ainsi, il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. Et cette promesse remarquable, il délivre tous ceux, c'est-à-dire nous tous ici, qui par crainte de la mort étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Et la servitude, c'est la peur, la crainte de la mort. Et lui, il est venu pour nous délivrer de la crainte de la mort par son sacrifice, pour qu'il n'y ait plus de servitude de la crainte de la mort, mais une paix, une joie dans les circonstances de nos vies. C'est lui qui doit le faire, nous ne pouvons pas le faire. Mais il veut qu'on le sache et il veut nous amener à pouvoir le vivre également. Et c'est pour ça que la Bible est tellement remplie de ces versets où le Seigneur Dieu veut nous amener à comprendre qu'il désire pour nous être délivrés de la crainte de la mort et de toutes les autres craintes, en quelque sorte. Et je vais lire les choses parce qu'il y en a plusieurs. Dans Luc, au premier chapitre, au verset 74, vous savez, c'est le cantique de Zacharie. Zacharie dit « Dieu qui veut nous permettre, après que nous soyons délivrés de nos ennemis, et surtout le diable et la crainte de la mort, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et la justice tous les jours de notre vie. » De le servir sans crainte. Oh, comme Dieu veut, par le sacrifice de son Fils qu'il a fait à la croix, nous délivrer de toute crainte, pour avoir cette paix qu'il avait lui sur le coussin, et qui est inexplicable, sinon par le fait qu'il était forcément habité par l'Esprit de Dieu. Et vous savez que dans l'Ancien Testament, la personne à qui il a donné le plus ses ordres, en quelque sorte, pour ne pas s'effrayer, c'est Josué. Et dans le premier chapitre, au verset 9, Dieu dit « Ne t'ai-je pas donné cet ordre ?» C'est un ordre. Alors l'ordre, il est le suivant « Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » C'est un ordre. Quel ordre ? Mais est-ce qu'on peut obéir à cet ordre ? Non. Mais le Seigneur veut faire pour que nous puissions lui obéir par sa grâce. Mais cet ordre, il est tellement important pour Dieu que Josué, et c'est pour ça qu'avant qu'il commence à conduire le peuple, il lui a dit ceci, « Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point. » Parce qu'on sait que le diable et la mort, c'est le roi des épouvantements, comme nous dit Job. Et que le diable fera tout pour nous faire perdre notre paix en Jésus et nous amener dans la crainte. Toutes les façons et de toutes les façons, parce que là, nous ne sommes plus en communion avec le Seigneur de notre faute. Il ne nous abandonne pas pour autant. Mais nous sommes sous cette crainte et Dieu a donné un ordre à Josué parce qu'il avait moyen de s'effrayer, Josué. Il avait le peuple, il avait tous les ennemis tout autour, il avait Jéricho, il avait des choses qu'il ne pouvait pas faire lui-même, donc il aurait pu avoir peur. L'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Et dans Ésaïe 41:10, ça, on le connaît bien sûr, où le Seigneur nous dit à tous, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je te soutiens de ma droite triomphante. » Il insiste là sur nos regards. Devant les circonstances qui existent, on poste les regards sur les circonstances, surtout quand elles sont aussi dramatiques que celles qu'on vient de voir. Et nos regards sur les circonstances nous amènent à forcément avoir la crainte et la peur. Or, nos regards, le Seigneur veut qu'on les porte sur le Seigneur Jésus, Hébreux 12, fixant les yeux sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. Il est bien dit « fixant », parce que si on ne fixe pas, nos regards, ils vont à nouveau aller se promener par la crainte sur les circonstances. Vraiment, la Bible est un livre tellement profond qu'il est bon de se rappeler toutes ces promesses dans ces circonstances. Et puis, On va lire ensemble Philippiens 4, qu'on connaît aussi, les versets 6 et 7. « Ne vous inquiétez de rien. » Comme on a dit un jour, « rien, c'est pas grand-chose, c'est rien. » Ne s'inquiétez de rien. Quelle phrase ? De rien. « Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. » Dieu ne nous demande pas d'être des héros, on ne peut pas, mais de faire connaître nos besoins dans la détresse également, par des prières et des supplications. Là, il y a les supplications dans les moments qui sont tellement difficiles, c'est plus que les prières, et avec des actions de grâce, pour pouvoir le remercier que déjà il saura ce qu'il faudra faire. Et à ce moment-là, verset 7, est la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. On connaît ce verset tellement, et heureusement qu'on le connaît. Mais le revoir ensemble, cette paix de Dieu, elle surpasse l'intelligence. C'est-à-dire qu'elle surpasse nos pensées sur les circonstances où nous passons. Elle est hors de la pensée. C'est un miracle, la paix de Dieu, elle vient par le Saint-Esprit. Quelles que soient les circonstances, à ce moment-là, elle garde deux choses. On marque hein, nos cœurs et nos pensées. Nos pensées, il y a une abondance de pensées qui nous amène toujours à aller un peu dans tous les sens, surtout dans le plus mauvais, quand c'est difficile. Eh bien, nos pensées vont être gardées dans la paix. Nos cœurs aussi, si on prend cette résolution de ne s'inquiéter de rien, mais de faire connaître nos besoins par des prières et des supplications. Et le premier épître de Jean, chapitre 4, verset 18, il nous est dit « La crainte n'est pas dans l'amour ». C'est un verset que j'ai toujours trouvé très, très fort, ça. « La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose le châtiment. » Donc 1 Jean 4, 18. « Et celui qui craint, eh bien, n'est pas parfait dans l'amour. » C'est une définition très forte, mais elle est pour nous encourager à rester dans l'amour du Seigneur. Et il veut absolument bannir de nos cœurs, si on est droit avec lui et fidèle, mais il veut bannir toute crainte. Quelle chose incroyable! Quelle chose incroyable, nous qui sommes des êtres forcément craintifs, puisque nous sommes des brebis errantes allant dans tous les sens. Puis la brebis a toujours peur, elle se sauve, on le sait. Alors maintenant, comment faire? À la place des disciples, pour nous, on s'imagine dans cette situation terrible, comment faire pour refuser de regarder les circonstances qui sont terribles, dramatiques, et regarder seulement à Jésus qui dissipe la crainte, pour mettre la paix comme lui, il l'avait. Je ne sais pas si ce que je vais dire est totalement juste, certainement, mais je crois qu'il faut d'abord décider de mettre notre confiance en lui. Ça, je crois que c'est une décision à prendre. Seigneur, maintenant, voilà, je suis dans telle circonstance, mais maintenant, je veux mettre ma confiance en toi et je veux que tu me donnes ta paix, puisque tu l'as promis dans ta parole par le Saint-Esprit. Cette paix qui surpasse toute intelligence. Et si on a cette foi, parce que la foi dont il est parlé là, pour les disciples, c'est la même que l'autre, c'est la foi en la parole de Dieu. On n'a pas d'autre foi. Évidemment, tu l'as dit, Seigneur, je veux maintenant te faire confiance. Tu sais où j'en suis, tu sais comme je suis, remplis-moi de ta paix. Je pense que c'est une décision à prendre. Et puis, si à ce moment-là, on veut faire cette confiance au Seigneur, le Saint-Esprit nous le permettra. Confiance à sa parole, en disant, Seigneur, c'est toi qui as la parole, tu m'as dit de ne rien craindre. Les circonstances peuvent me faire craindre, mais je veux te remettre mon cœur. Je ne veux pas craindre, mais te faire confiance. À ce moment-là, après cette décision, il y aura aussi un combat dans la prière, dans nos vies, quand les circonstances sont difficiles et qu'elles durent. Il y a le combat de la prière, en sachant que le Seigneur entend nos prières. Et vous avez vu dans Philippiens 4, 6, il y a des prières et il y a des supplications. Combien le Seigneur attend de nous une vie de prière profonde, et certainement encore plus profonde pour moi, qui sont des fois des supplications jusqu'à ce qu'il arrive à dénouer le problème, et que pendant ce temps-là, il puisse me garder dans la paix. C'est un chemin. C'est un chemin, mais c'est à nous, avec notre décision, à d'abord le prendre, peut-être pas tout seul, mais dans la communion fraternelle, avec les frères et sœurs, où on peut s'entraider entre nous pour prier ensemble pour toutes ces choses. Voilà. Et ensuite, pour que, à travers ces choses, eh bien, le Seigneur va faire grandir notre foi. Il veut la rendre plus solide à travers les expériences. Toutes les expériences de nos vies, Dieu les permet pour que notre foi soit de plus en plus solide par les expériences que nous faisons. Et on voit bien sûr que là, le Seigneur a mis la barre très haut avec ses disciples dans cette noyade possible. Mais il a absolument voulu, et son ton était quand même un ton de reproche sévère. Où est votre foi? Pourquoi n'avez-vous pas de foi? Et c'est pour moi ça, c'est pour moi. Et pour Abraham, il avait mis la barre très haut également, à plusieurs reprises, pour attendre l'exaucement d'avoir le fils. Et on sait que Abraham, après un chemin un peu chaotique, eh bien, il est arrivé à lui faire totalement confiance. Il est arrivé à cette position. Et puis quand il a dû donner Isaac sur l'autel, là il était dans la position. Le Seigneur se pourvoira lui-même de l'agneau. Et c'est pourquoi Abraham, ayant fait ce chemin complet de la confiance en Dieu, de garder la paix, aussi avec un chemin, eh bien, à ce moment-là, il a pu être dit dans Hébreux 4, ceci, espérant contre toute espérance. Il n'avait plus aucune espérance. Il crut et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et ce chemin, c'est aussi le nôtre que Dieu veut nous faire continuer à prendre, puisqu'on a déjà quand même quelques années avec lui maintenant, et un peu moins devant. Et Dieu nous amène dans ces situations difficiles pour faire progresser notre foi. Et après avoir revu cette épreuve des disciples devant la tempête, l'avoir bien compris également, eh bien, est-ce que pour moi c'est acquis, cette foi, dans la confiance, dans les circonstances qu'il permet? Alors, je vais vous raconter une expérience d'un frère, qui est moi, il y a peu de temps. Nous rentrions de Dallas, donc cette semaine, d'avoir vu les enfants, et puis il y a eu des turbulences. Alors ça, ceux qui sont déjà montés des gros avions, les turbulences, c'est impressionnant. Hein. On a l'impression que l'avion va se désosser. On est à 9000 mètres, il fait nuit, on est au-dessus de l'Atlantique. Bon, on ne peut pas s'arrêter un peu pour se cacher. Et puis, moi j'avais déjà connu les turbulences. Je savais que ça passe. Et les premières, j'avais eu très peur. Donc celle-là, je savais que c'était des turbulences. J'aurais non pas pu dire ce que j'ai dit au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, protège-nous. C'est maintenant que je vois, mais on voit toujours après. J'aurais dû lui dire, Seigneur, merci de ce que tu nous protèges. Mais je n'avais encore pas cette foi. Et j'ai eu peur des turbulences. Et je n'étais pas à l'état des frères dans la barque. Hein. Je savais qu'elle allait s'arrêter. Mais j'ai regardé les circonstances. Puis j'ai imaginé les ailes qui s'en allaient, vous savez, l'avion qui tombait, les filets de sauvetage, et puis bon, c'est pas terrible, hein, comme avenir. Voilà où j'en étais. Et puis j'ai 50 ans de vie chrétienne. Donc ça ne va pas. Mais je suis content que ça aille pas. Non, je ne suis pas content que ça aille pas. Mais content de le partager pour qu'on demande, demandez-le pour moi, mais chacun pour nous, qu'on progresse dans cette confiance en Jésus, qu'il est dans les circonstances, et qu'on ne regarde plus aux circonstances, on est obligé de les voir, on ne peut pas, faut pas être idiot, mais qu'on dise, Seigneur, ces circonstances, tu les as permises pour que ma foi en toi grandisse. Et au bout du compte, eh ben, ça m'a amené à donner ce message de soir, parce qu'il fallait que je vous le dise, que j'ai regardé aux circonstances, puis en comparant à tout ça, c'est pas ça que Dieu veut. Donc c'est pas ça qu'il veut pour moi. Alors je me dis qu'il ne me reste plus beaucoup d'années, et puis le Seigneur, il veut faire pour chacun de nous, comme il a fait pour Abraham, puis pour tant d'autres, comme Josué. Il veut nous donner cet ordre, fortifie-toi, prends courage, ne crains rien, je suis avec toi. Voilà, et c'est voilà ce qu'on voulait un peu partager ensemble, cette paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. C'est lui qui la donne. Et l'intelligence, elle nous dit, mais attends, mais tu te trompes de faire confiance, regarde où tu en es. Non, non, la paix de Dieu, elle surpasse toute intelligence humaine. C'est quelque chose, c'est un miracle de Dieu. Et c'est un Dieu de paix. C'est un Dieu qui veut la paix dans nos cœurs et plus la crainte. Voilà, ben voilà mon témoignage de retour d'Amérique. Mais ça nous encourage. Ça nous encourage à continuons à faire confiance au Seigneur. Il ne peut pas nous tromper. Le témoin fidèle qui est dans le ciel. Il sait partout où nous passons. Il a tout prévu, tout dirigé. et il veut amener tout à bonne fin pour nous. Voilà. Quelques paroles.